9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Le Phaéton est un vaisseau militaire britannique et il approche de l'île de Sainte-Hélène. Nous sommes dans l'après-midi du 14 avril 1816, encore en plein océan Atlantique. Sur le pont, Sir Hudson Law regarde par la lunette cette île qui est en train de se dessiner à l'horizon. Vous savez, cette espèce de morceau de roche battu par les flots. Il y a plus de 6 mois maintenant qu'il a été nommé gouverneur général de Sainte-Hélène. Mais surtout, il a la mission de surveiller le prisonnier le plus dangereux aux yeux de toute l'Europe, qui a été très effrayé par le retour de Napoléon de l'île d'Elbe quelques mois plus tôt. Évidemment, il s'agit de Napoléon Bonaparte. Hudson Law est âgé de 47 ans à l'époque, ce qui fait qu'il a exactement le même âge que Napoléon. Il est d'une taille au-dessus de la moyenne, silhouette fine, ce qui lui donne un air peut-être un peu sec. Il est assez austère, faut vous le dire, avec une chevelure rousse qui se teinte de gris, des boucles rebelles encadrant un visage un peu rougeau. Des sourcils roux, épais, qui dissimulent en partie ses yeux, des yeux qui sont très mobiles. On pourrait dire d'une certaine manière qu'il est l'archétype de l'anglais tel qu'on l'imagine, évidemment. Dans la nuit du 14 au 15 avril, Sir Hudson et son état-major ont décidé de passer la dernière nuit à bord du navire et au petit matin, donc le lundi 15 avril, voilà donc que Law descend l'échelle de coupé, grimpe sur le canot et se dirige vers cet îlot rocheux, cet îlot volcanique qu'il ne quittera plus maintenant pendant 5 ans. Il est accueilli au port où on lui rend les honneurs, évidemment, tout ça, il est le gouverneur militaire, on lui rend les honneurs dus à son rang. Il se dirige vers le château pour présenter son état-major et c'est là qu'il va prêter serment en qualité donc de nouveau gouverneur. Il demande qu'on le conduise au sein de sa demeure personnelle, à Plantation House, pour qu'il puisse se reposer un peu, avec sa famille bien sûr. Le soir de son arrivée, il fait savoir qu'il rendra visite dès le lendemain matin au général Bonaparte, c'est ainsi qu'il l'appelle, c'est ainsi que d'une façon plus générale, les autorités britanniques ont décidé d'appeler l'ancien empereur des Français. On lui signale que toute visite à Longwood doit faire l'objet d'une demande préalable auprès du grand maréchal du palais, le maréchal Bertrand. Et oui, c'est comme ça, Napoléon, lui, se considère comme un empereur. Le gouverneur hausse les épaules. Un prisonnier accorde-t-il des audiences, demande-t-il. Il va falloir qu'il se fasse assez vite à ses nouvelles fonctions. Dans un ouvrage qui s'appelle « Napoléon à Sainte-Hélène », Pierre Branda nous dit... Ce 16 avril 1816, le soleil n'était pas encore très haut quand il chemina vers Longwood sous une pluie battante en compagnie de son état-major. Triste jour. Dans ses uniformes impeccables, la cohorte des tuniques rouges apparut respectueusement à la porte du parloir. Les pendules de la maison sonnèrent 10 heures quand Montholon les fit entrer. Tandis qu'il patientait, Gourgaud alla prévenir son maître. S'il était en effet prêt à le recevoir, le captif n'avait pas été prévenu de cette visite matinale, ce qui était contraire à son étiquette. Napoléon se prétendit malade et ferma brusquement la porte aux Anglais. Au-delà d'une simple question de forme, il voulut, en la circonstance, à nouveau réaffirmer son rang et imposer le respect. Il n'était point général, mais empereur. Napoléon, pour tout vous dire, en vérité, même s'il fait preuve là de mauvaise humeur, bien sûr, et surtout il fait preuve de caractère, c'est Napoléon, mais il voit l'arrivée de ce nouveau gouverneur plutôt d'un bon œil puisqu'il haïssait complètement l'ancien. Law trouve grâce à ses yeux d'abord parce que c'est un militaire. Par ailleurs, il s'était affronté déjà sur les champs de bataille. Napoléon avait même dit à Lascaz « Ne m'aviez-vous pas dit que Law était à la bataille de Champaubert? Nous aurions donc échangé des boulets ensemble? C'est toujours à mes yeux une belle relation. » Mais le général Bonaparte, comme s'obstine à l'appeler Sir Hudson, va devoir bien vite déchanter.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il va y avoir enfin une rencontre entre les deux hommes. Elle a lieu le mercredi, le 17 avril. Cette fois, on a bien consulté le maréchal Bertrand. Première entrevue, elle est convenable mais froide. Les relations entre les deux hommes vont très vite se dégrader. Le gouverneur a une peur, mais qui est quasiment une peur panique, en tout cas obsessionnelle, c'est que Napoléon ne finisse par s'échapper de Sainte-Hélène comme il l'avait fait de l'île d'Elbe. C'est moins facile, me direz-vous. Cette hantise d'Hudson Law explique sans doute le zèle avec lequel, pendant toute la durée de son long séjour à Sainte-Hélène, il va se tenir sur ses gardes. Le nouveau gouverneur de l'île, rapidement, prend des décisions drastiques pour surveiller l'exilé. Un couvre-feu est établi sur l'île à partir du coucher du soleil. Nul habitant n'a le droit de s'adresser à Napoléon Bonaparte. Lorsque celui-ci sort pour une promenade, il doit toujours être accompagné par un officier anglais. À la nuit tombée, des soldats doivent sans cesse patrouiller dans le jardin de la résidence de Longwood, donc la résidence de l'ancien empereur. Et malgré toute cette surveillance, un capitaine anglais doit se rendre deux fois par jour à Longwood pour s'assurer de la présence de celui qui est une sorte de grand détenu d'État, si vous voulez. Napoléon ne supporte pas tout ça. Il a l'impression très vite de devenir la victime de ce gouverneur qu'il méprise. Il déclare à son propos « Il a un visage de hyène prise au piège. J'ai vu des Tartares, des Cosaques et des Kalmouks. Je n'ai jamais vu une figure aussi sinistre et repoussante. » Et évidemment, comme Hudson Law sait tout ce qui se dit à Longwood, on lui répète ce genre de propos. « Quelle crapule que notre voisin !» répond le gouverneur anglais. Les rencontres entre les deux hommes vont devenir de plus en plus rares. Napoléon se plaint régulièrement et de la manière la plus officielle qui soit du traitement qui lui est réservé. Il déclare s'être livré aux Anglais et ainsi il estime qu'il n'est pas du tout un prisonnier. Il explique tout ça par courrier au gouverneur, mais celui-ci ne répond jamais. La dernière rencontre, elle a lieu le 18 août 1816, c'est-à-dire pas très longtemps après l'arrivée d'Hudson Law sur l'île. Ils sont en train de marcher dans le jardin de Longwood et Napoléon dit à Hudson Law « J'ai gouverné et je sais qu'il y a des missions et des instructions qu'on ne donne qu'à des hommes déshonorés. » Il conclut « Dans 500 ans, le nom de Napoléon brillera et le vôtre ne sera connu que par la honte et l'injustice de votre conduite envers moi. » C'est très sévère, c'est très dur et en même temps, on a envie de dire, c'est très lucide sur la réalité des choses. Le gouverneur n'en resserre pas moins l'étau autour de celui qu'il continue de regarder comme un prisonnier et qu'il continue d'appeler le général Bonaparte. La moindre correspondance entre Longwood et l'extérieur doit désormais transiter par le bureau du gouverneur, même les notes de blanchisserie, on ne sait jamais, ça pourrait servir de message codé. Hudson Law multiplie les décisions vexatoires et à la fin de l'année 1816, on sait qu'on demande à Las Cases de gentiment quitter Sainte-Hélène. Tout ça est lié à une décision du gouverneur, en vérité. En 1818, on en fera autant avec le médecin Omira, qui avait peut-être qui avait eu la mauvaise idée d'entretenir avec l'empereur des relations trop suivies. En vérité, ce n'est que le 6 mai 1821 que Hudson Law reviendra à la rencontre de Napoléon, si je puis dire, puisque, évidemment, cette fois, le général Bonaparte ne pourra pas se lever pour lui, puisque ça fera 24 heures qu'il aura quitté le monde des vivants. Adagio du concerto pour piano et orchestre numéro 5, le concerto L'Empereur de Beethoven, était interprété par Murray Peraya et par l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam sous la direction de Bernard Haitink.
Vous écoutez Radio Classique,
Avant que la mission d'Hudson Lowe sur l'île de Sainte-Hélène ne s'achève, il doit tout de même préparer la mise en terre de Napoléon et assister aux obsèques. C'est au Val du Géranium, vous savez, qu'on enterre l'ancien empereur des Français, la pierre tombale. Qui est déposé sur le tombeau ne porte pas d'inscription. Les Français ne vont pas réussir à convaincre le gouverneur de faire figurer le nom de Napoléon sur cette pierre, puisque eux ne veulent pas écrire évidemment Général Bonaparte, vous l'imaginez bien. Lorsque Hudson Lowe, accompagné de tout son état-major, quitte la vallée, « Et voilà, messieurs, c'était le plus grand ennemi de l'Angleterre, dit-il à son entourage, et c'était le mien également. Mais je lui pardonne tout. À la mort d'un grand homme comme lui, on ne doit éprouver que regret et recueillement. » Évidemment, c'est tout de même un soulagement pour ce gouverneur. Cette mission s'achève, il en est persuadé, il l'a menée avec succès, puisque Napoléon ne s'est pas échappé de Sainte-Hélène, comme il l'avait fait de l'île d'Elbe. Et avec sa famille, il peut désormais rentrer en Europe, Hudson Lowe. Ça fait 5 ans hein, qu'il était sur ce rocher battu par les flots. Dans son ouvrage « Hudson Lowe, le geôlier de Napoléon », Jean-Pierre Fournier écrit « Le Lady Melville met la voile le 25 juillet 1821. Accoudé au bastingage, Hudson Lowe regarde la rébarbative forteresse qui s'évanouit à l'horizon. Il ne doute pas un instant que sa patrie va lui réserver un accueil chaleureux. À l'approche des côtes britanniques, un navire apporte au Lady Melville un pli de Lord Bathurst. « Je suis heureux de pouvoir vous assurer que votre conduite a reçu l'approbation de Sa Majesté. Vous avez su concilier les deux principaux devoirs de votre commandement en combinant la sûreté de la détention du général Bonaparte avec tous les égards praticables et avec toute l'indulgence que votre disposition naturelle vous inspirait. » Voilà un langage bien diplomatique et assez britannique, entre nous soit dit. Hudson Lowe est persuadé que l'heure des récompenses a sonné. Ah, il va falloir qu'il déchante, pour tout vous dire. Le premier rendez-vous avec ce Lord Bathurst est d'une extrême froideur. Ça n'a rien à voir avec la lettre, avec les termes de la lettre qui a été reçue quelques jours plus tôt. Ce n'est qu'à la mi-novembre que Sir Hudson va pouvoir rencontrer le roi George IV au cours d'une audience collective. Du reste, le roi ne le reçoit pas en privé. Il lui adresse quelques mots de remerciement, mais vraiment très 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 superficiels. Alors que lui, Hudson Lowe, se considère plus ou moins comme un héros qui tenait dans ses mains la sécurité non seulement de son pays, mais de l'ensemble de l'Europe. Et il ne comprend pas que l'on ne manifeste pas davantage de reconnaissance à son égard. Il va falloir maintenant lui trouver un poste, une place. Alors il est nommé colonel au 93e Highlander, ce qui le déçoit, puisqu'il était lieutenant-colonel à Sainte-Hélène déjà. Le train de vie qu'il mène n'a rien à voir avec celui d'un gouverneur, évidemment. Bref, c'est tout juste, il n'en vient pas à regretter la vie qu'il menait là-bas, au milieu de l'Atlantique Sud. Et chose incroyable, l'opinion britannique le juge très sévèrement pour le traitement un peu rude qu'il a réservé à Napoléon. Et il voit bien que lorsqu'il se déplace, lorsqu'il rencontre des gens, on le reçoit très froidement, très sèchement. Il est celui qui n'a pas su être courtois avec Napoléon. Hudson Lowe doit assumer sa responsabilité. C'est lui qui avait pris toutes les mesures sur place. On va voir des affiches couvrir les rues bientôt, appelant tous ceux qui admirent le courage dans l'adversité à prendre le deuil. Le deuil de qui ? De Napoléon. Et il y a même des endroits maintenant où l'on se met à huer Hudson Lowe à chaque fois qu'il est reconnu. Et quand on dit, mais vous savez, c'est le geôlier de Napoléon, c'est le geôlier de Napoléon. Le pire advient quand d'anciens compagnons d'exil de l'empereur écrivent des ouvrages sur le traitement qu'a subi Napoléon là-bas. Le premier, c'est le médecin O'Meara, justement, qui écrit dès 1822 en anglais 2 ouvrages qui vont avoir un très grand succès puisqu'ils vont être réédités plusieurs fois dans la même année. Lorsqu'il se trouvait à Sainte-Hélène, ce médecin qui avait été assez proche de Napoléon avait diagnostiqué en 1818 une hépatite chez son impérial patient. Il déclarait que la cause de cette maladie était liée au climat et aux conditions de détention. Évidemment, Lowe exige qu'il modifie ses conclusions à l'époque, sauf que le médecin refuse, et c'est ce qui va lui valoir ce départ forcé de l'île en août 1818. Et maintenant, il règle ses comptes. Et le peuple britannique apprend tous les agissements de l'eau, qui alors là maintenant, non seulement n'est plus bien reçu, mais est carrément gênant. L'ex-gouverneur ne comprend pas l'engouement de son pays pour cet homme qui, à ses yeux, était d'abord une menace et était un grand ennemi, tout simplement. Or, les choses ne s'arrêtent pas là. Lascaz va publier, vous le savez, en 1823, son célèbre mémorial de Sainte-Hélène, qui poursuit l'œuvre de réhabilitation, si l'on peut dire, d'auto-réhabilitation de Napoléon. Et pour faire de Napoléon un martyr, il fallait qu'il y ait un bourreau. Et inutile de vous dire que le bourreau, il est tout désigné. Dans un article intitulé « Hudson Law, un portrait », le cher Peter X, que j'ai grand plaisir à citer, nous dit « Même si l'on a, à juste titre, critiqué l'argumentation d'Omehara, son Napoléon dans l'exil, suivi bientôt du mémorial de Lascaz, figea durablement le portrait de Law. On est tout de même fondé à penser que le médecin et plus tard Lascaz avaient vu juste. On aura bien du mal à trouver un témoignage contemporain qui ne mette pas en cause le caractère du gouverneur, quel qu'ait pu être par ailleurs ses qualités d'administrateur. Son rôle historique n'était pas de construire des routes ou d'améliorer la distribution d'eau à Sainte-Hélène, ce qu'il fit correctement. C'était d'être un des protagonistes de la dernière bataille de Napoléon, avec l'envol de la légende dans laquelle sa légende noire trouve une place toute particulière. Sir Hudson, compte tenu de sa vue courte et de sa rigidité, ne pouvait qu'être broyé. Il le fut d'ailleurs très rapidement de son vivant. Ah, quel accueil pour Hudson Law qui pensait être un héros du peuple britannique. Le gouvernement, à cause de lui, subit des attaques par ricochet. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Vous connaissez la politique. On va faire d'Hudson Law un bouc émissaire, bien entendu. On va lui faire porter le poids de cette faute. Alors que dans la réalité, c'est une faute dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle a été partagée avec le cabinet. Hudson Law devient un tel poids, un tel boulet, comme nous dit Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission, que le gouvernement britannique va devoir l'éloigner. On l'envoie loin, le plus loin possible. Un extrait de la très classique symphonie en ré majeur de Samuel Wesley, London Mozart Players, était dirigé par Matthias Bamert.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Hudson Law va essayer de se défendre, évidemment, mais il est un peu impuissant face à cette espèce de mythologie qui est en train de naître, la grande légende napoléonienne. Alors il va faire un procès au docteur Omehara, mais il perd son procès, et il en perd même plusieurs. Ses avocats n'ont pas l'air d'avoir une grande envie de le défendre, pour tout vous dire. En octobre 22, le fils de Lascaz se rend à Londres pour provoquer Hudson Law en duel. Ce dernier refuse, il dit que la loi anglaise s'oppose au duel, mais vous imaginez bien que ça ne contribue pas à sa popularité. Or, Emmanuel de Lascaz va prendre sa cravache et venir frapper Hudson Law sur la voie publique, et il n'y a personne pour le défendre. Non, c'est vraiment une descente aux enfers pour lui. On est bien obligé de rire un peu sous cap quand on voit tout ça. En 1825, on indique à Hudson Law que l'actuel gouverneur de Ceylan doit bientôt prendre sa retraite, et on lui propose de se rendre là-bas pour se préparer à prendre la suite. Law décide de partir par voie terrestre, et durant son très très long périple, il va plusieurs fois risquer sa vie parce qu'il y a un peu partout sur le chemin des bonapartistes qui veulent attenter à ses jours. À Constantinople, par exemple, il y a un homme qui va carrément ravager son appartement et qui l'attend de pied ferme. Il veut, dit-il, tuer l'empoisonneur de Napoléon. L'eau, parce que entre-temps, toute l'histoire de l'empoisonnement a fait florès, bien entendu. L'eau est prévenue de cet affront et d'autres, évidemment. C'est ainsi que il va y avoir pas mal d'incidents sur sa route et qu'il va se trouver dans une situation de plus en plus difficile. Il arrive complètement épuisé à Ceylan. Il croit que là-bas, tout va aller mieux, mais non. Même à Ceylan, à l'autre bout du monde, si l'on peut dire, la mémoire de Napoléon le rattrape. Alors qu'il y est depuis une année seulement, on lui fait parvenir un livre de Walter Scott, le plus grand, le plus célèbre écrivain britannique de l'époque, qui vient de faire paraître un ouvrage nommé « Histoire de Napoléon Bonaparte ». C'est la première biographie de l'empereur en anglais. Hudson Law se précipite sur les derniers chapitres et il n'échappe pas évidemment à la critique habituelle. Il est accusé, je cite Walter Scott, Sir Walter, d'avoir cédé à son mauvais caractère, changé trop fréquemment les règlements, agi avec beaucoup d'anxiété pour remplir la tâche qu'on lui avait confiée et considérer Napoléon comme un objet de ressentiment et de représailles. Ah, décidément, la vie d'Hudson Law sera définitivement marquée par ce passage à Sainte-Hélène et par ce qu'il a fait à Sainte-Hélène.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il est un peu irrité, c'est plus qu'irrité, il est scandalisé par les accusations de Sir Walter Scott, notre Hudson Law. Donc il demande l'autorisation de rentrer en Angleterre pour venir défendre son honneur. Mais avant même de recevoir la réponse, le voilà qui part pour Londres. Et sur son chemin, il est malmené à l'île Maurice par une foule de bonapartistes. Ensuite, il fait une escale de 3 jours à Sainte-Hélène. On ne sait pas s'il va se rendre sur la tombe de son ancien prisonnier au Val du Géranium, mais tous ceux qui sont favorables à la thèse de la substitution des corps précisent bien que lorsqu'il repart de Sainte-Hélène, après y avoir passé près de 3 jours, Hudson Law remporte le corbillard de l'empereur, rideau fermé. Alors est-ce qu'il y avait la bière de Napoléon? Est-ce qu'il a dans cette affaire servi d'homme de main au roi George IV? Peut-être pour rentrer en grâce? Ça, l'histoire ne le dit pas et je m'empresse de refermer la parenthèse. Il finit par arriver à Londres où on n'était pas du tout pressé de le recevoir. On lui intime l'ordre de retourner d'où il vient, là-bas, à Ceylan. Et on lui dit que, pour essayer de le rassurer, on lui dit qu'il sera bientôt gouverneur de l'île. Seulement, dès son départ, les conservateurs qui le soutenaient jusqu'alors perdent les élections. Ce sont les Whigs, les libéraux qui les remplacent et qui n'ont pas du tout l'intention de nommer celui qui a été le geôlier de Napoléon à un quelconque endroit. Et même si c'est à des lieux et des lieux du Royaume-Uni. Finalement, Hudson Law quitte définitivement Ceylan en 1831. Il lutte avec le bureau colonial pour recevoir la pension qui lui est due. Sa femme décède l'année suivante, là on est en 1832. Et c'est un homme seul, c'est un réprouvé d'une certaine manière, qui vit dans un modeste appartement de Londres en 1840. Dans les journaux, il lit tout le compte-rendu des cérémonies qui ont été organisées pour le retour des cendres de Napoléon à Paris, et vous imaginez bien qu'en 1840, si j'ose dire, on en remet une couche. Jamais la légende napoléonienne n'a été si florissante et jamais la mémoire d'Hudson Law, donc, n'a été à ce point flétrie. C'est un homme flétri, oui, meurtri, qui va mourir le 10 janvier 1844 à 74 ans. 8 ans après sa mort, un de ses fils va publier les nombreuses pages que son père avait noircies. 4 tomes très épais, qui n'avaient qu'un but, bien sûr, défendre la mémoire d'un gouverneur face à celui que, jusqu'au-delà de la mort, il n'aura cessé d'appeler le général Bonaparte.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Jean-Baptiste Galen pour cette émission et bonjour à Christian Morin.
Attendez, je vais me mettre en tenue avec la main dans le gilet.
Dans le gilet.
C'était vrai.
Ça va être difficile avec votre pull à col roulé. Hein, vous pouvez toujours faire un trou. Si
oui,
vous
oui, on va faire une description. Nous sommes tous les deux en bleu marine aujourd'hui.
C'est vrai.
Après, c'est assez amusant d'ailleurs.
C'est bizarre, oui. Cette
gémellité. Oui, oui. Dites-moi, oui, cette histoire de est-ce que c'était pour des histoires de souffrance, d'estomac, qu'il avait souvent la main dans...
Non, c'était une habitude que avait tout le monde. Vous savez, à l'époque, on portait la main dans le gilet. C'était
oui, puis il n'y avait pas de poche sur les...
Regardez les portraits qu'on a de bien des personnages du XVIIIe siècle, qui sont de la même façon. Sauf que comme c'était Napoléon, évidemment, finalement, c'est devenu un geste affiché et définitivement associé à la
Toujours
personne.
Toujours est-il que si un jour on m'envoyait pour X raison à Sainte-Hélène, je me permettrais de vous demander d'être mon geôlier, parce que le soir, en m'endormant, vous me raconteriez des histoires.
Vous savez que si ça vous intéresse, on est en train de préparer un grand voyage à Sainte-Hélène pour le bicentenaire du mémorial, là, ce sera en 2023. Donc.
On en reparlera sur l'antenne de Radio Classique. C'est ouvert à tout public.
Ah, mais bien sûr.
Voilà un beau voyage en perspective. Oui. Voyage en perspective, bien sûr, demain matin, de nouveau, avec une nouvelle histoire, du côté du théâtre, je crois, un petit peu.
La comédie. Ne dévoilez pas trop les choses.
Non, mais je n'ai rien dit, je n'ai pas donné de nom. Vous savez que, surtout par les temps qui courent. Merci beaucoup, Franck. Excellente journée.